C'est fantastique.
Elle conduit, elle marche, extraordinaire.
C'est pour ça qu'on a renouvelé le permis.
Eh bien, c'est fantastique. Tu es un exemple pour nous tous. Voilà, sache-le. Sache-le. Tov. Eh bien, les amis, oh, oui, très bon exemple. Alors, les amis, quoi vous dire?
Soukot.
Bah oui, Chag HaSoukot. Bah, écoute.
Pourquoi on fait Soukot?
Il y a fait, tu commences à me voir venir.
J'ai écouté ce que
tu as. Il y a fait, bah voilà, donc il n'y a plus de secret.
Écouté,
eh oui, les spoilers. Mais oui, mais vous avez bien compris que c'est la question de base de tous nos cours. Quand on aborde une fête, on veut savoir pourquoi on fait la fête. Et avant de vous dévoiler les secrets, on ne peut pas se satisfaire d'un folklore sympathique. Le folklore, il est sympa, on le prend tous, on l'aime tous. C'est d'ailleurs ce qui va permettre de fidéliser les petits-enfants, c'est ce qui va permettre de transmettre, d'accord. Mais si on ne veut pas que le judaïsme ne devienne un espèce de truc folklorique, et voilà, non. Non, je me rappelle qu'on a été, avec ma femme, on était à... Comment ça s'appelle cette ville?
Oh là là. Metz.
Non, pas Metz. Non, pas Metz. Non, on était... Ah là là, ben voilà, tu vois. Alors ça c'est pas mal.
En France?
Non, c'était pas en France.
En Londres.
En Suisse.
Ah, voilà, j'ai retrouvé, c'est bon. On était à Vienne. À Vienne. D'ailleurs, dans le même hôtel, c'est Joël et Sandra qui nous ont dit où est-ce qu'ils avaient été. Et donc, on a été là-bas. Et c'est à côté du quartier juif, tout ça. Et on voulait aller visiter la choule. Et il y avait des horaires très, très stricts. Et si on pouvait, on pouvait pas. Finalement.
C'est allemand.
Hein. Oh, ouais. Et finalement, on n'a pas été. Et j'ai dit, mais tu vois, mais c'est pas si grave. Franchement, c'est la choule. C'est une choule. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Que si t'es un touriste et que tu viens voir le judaïsme parce que c'est pittoresque, d'accord, mais moi j'ai pas besoin, ils vont montrer quoi, qu'il y a un Ron Kodesh, c'est la choule de Vienne. Maintenant, si le judaïsme ça devient du folklore, on va visiter, machin, bah ok. Mais si on veut que ce soit du vrai, alors il faut que ce soit du vrai. Maintenant, j'ai pas de problème, a priori, avec les choses que me disent les rabbins, quand c'est mignon. Mais quand il y a une kushia, c'est-à-dire quand il y a un truc qui me dit, bah attends, tu me dis ça, mais ça contredit ça. Ça arrive. J'ai pas une controverse. Mais non, j'ai pas de problème. Mais tu peux pas me répondre comme réponse. Et pourquoi je dis, bah ça, c'est un bel argument. Et quel est mon problème? Mon problème numéro un, alors je l'ai dit ce matin, je le répète. Mon problème numéro un, alors, non, j'ai pas dit ça ce matin, mais si on me dit que nous fêtons la fête de Soukhot parce que, c'est ce qu'on entend en général, c'est que Dieu nous a sortis d'Égypte et il nous a mis dans des Soukhot. Moi, j'ai vu le film. Il n'y a pas de Soukhot.
Non, il y a des tentes.
Ah, tout à fait, il y a des tentes. C'est-à-dire que dans la Torah, on me dit, par exemple, sous les paroles de Bilam, on me dit « Matovu o'alecha Yaakov mishkenotecha Israël ». On m'a pas dit « Matovu sukotecha ». On est dans des tentes. D'autre part, si tu me dis que non, en fait, les sukotes ne font pas référence à l'endroit où on dormait, mais font référence à la première étape que nous avons atteint en sortant d'Égypte, puisque nous dit le verset de la Torah, Vaïssou mi Ramsès, on est sorti de la ville de Ramsès en Égypte, et ensuite on est arrivé à la première station qui s'appelait Soukhot. Vaïssou mi Ramsès, Soukhota. On est arrivé à Soukhot. Bon, mais d'accord, mais d'abord, un, il est très possible que cet endroit n'ait reçu le nom de Soukhot que plus tard. D'autre part, même si ça s'appelait Soukhot, et même si on s'est arrêté là-bas, bah, arrive la vraie problématique. Ça s'est passé quand qu'on est arrivé à Soukhot? Ben, ça s'est passé le lendemain de la sortie d'Égypte. Donc à Pessah.
Après Rosh Hashanah.
D'autre part, on va nous dire que Soukhot, c'est en souvenir des Anané Kavod, des nuées protectrices magiques, miraculeuses, que Dieu nous a données. Pourquoi pas? Mais là encore, les nuées, on les a reçues quand ?
Dans le désert.
Mais quand ?
À la sortie d'Égypte.
Ouais. Donc, il faudrait faire la souka
à
Pessah.
Dans la logique, oui.
Ah oui, on devrait faire le seder dehors, dans la souka. Pourquoi pas ? Ça peut être une ambiance. Ouais. Non ?
On a fait meilleur, non ?
Alors, et c'est là qu'arrive cet argumentaire qui est un argumentaire insoutenable, galoutique, un argumentaire canadien, j'irais même jusqu'à dire, de dire que, bah oui, mais tu comprends, on peut pas faire Sukkot à Pessah parce que ce serait trop facile. Parce que à Pessah, il fait bon, et donc sortir dans la soukha, ça ne montre pas mon attachement à Dieu. Comme si, et en Tishri, là, oui, il fait très froid, et ça montre que je veux se servir Dieu. Alors, il y a sept problèmes en disant cette phrase-là. La première est le plus simple. Non, mais enfin, la Torah n'a pas été donnée pour le Canada. Oui, effectivement, au Canada, tu vas devoir déblayer la neige avant de rentrer dans ta soukha. D'ailleurs, tu n'y rentreras pas parce qu'il neigera. Mais même en France ou en Angleterre, où il pleut tout le temps, la Torah n'a pas été donnée pour ça. C'est vrai qu'en France, il fait plus froid mi-octobre que mi-avril. Mais en Israël... Oui,
en plus de ça, on fait la prière pour recevoir la pluie.
Après Sukkot.
Après Sukkot. Oui.
Après Sukkot. Ça montre bien...
Mais en galoute, il pleut tout le temps.
Ah ben, c'est pas de chute. Mais ça prouve bien que si on fait la prière pour la pluie après Sukkot, c'est qu'à Sukkot, c'est pas encore la saison des pluies. Parce que tu viens en Israël, et tout d'un coup, tu te rends compte qu'à Sukkot et à Pessah, il fait le même temps.
C'est vrai.
Mais je suis d'accord, mais c'est aussi.
On faisait la prière sur la Sukkot.
Nakhon. Nakhon. Mais c'est pas du tout l'idéal. Ici, regarde-moi ce temps. Voilà. Dans deux jours, c'est Sukkot. Alors, il fera peut-être un petit peu plus frais qu'il y a un mois. Mais pas tellement. Hein.
32.
Hein, c'est combien ils ont prévu ? 30. Ouais, bon, c'est un peu plus frais. Un peu plus frais. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? De me dire, on fait Sukkot en Tishri, parce que sinon, ça serait trop facile. C'est absurde. C'est un argument d'exil de personnes qui sont complètement détachées de la réalité. D'autre part... C'est un autre argument, enfin, cette même argumentaire est terrible. Parce que ça voudrait dire que pour être un bon juif, il faut souffrir. Quand tu dis c'est trop facile de faire ça en Nissan, vaut mieux faire ça en Tishri, parce que ça montre que tu es prêt à faire les mitzvot de Dieu, c'est terrible. Donc, ça veut dire qu'il faut s'interdire des choses dans Kashrout qui n'ont pas lieu d'être interdites, mais il faut se les interdire quand même. Parce que comme ça, on est des meilleurs juifs. Quand on souffre plus, on est des meilleurs juifs. Les amis, plus chrétien que ça, tu meurs.
Plus blanc que blanc.
Ah non, c'est terrible. Donc non, absolument pas. Il va falloir qu'on trouve une meilleure raison pour laquelle Sukkot, c'est bel et bien en Tishri. Et voilà. Maintenant, toutes les explications qu'on va donner comme étant la suite de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et que c'est la conclusion, oui, mais non. C'est-à-dire oui, mais ce n'est pas la raison de base. Ce n'est pas la raison historique. La raison historique doit être en premier lieu et dessus, on va rajouter des autres choses. Je radote, hein, mais comme on avait dit pour Rosh Hashanah que c'est la libération des prisonniers et tout ça, qu'on a été libéré de l'esclavage, là-dessus, tu peux me rajouter comme explication parabolique que le chauffard me libère de toutes mes prisons intérieures. Ok, c'est en plus du fait que, à la base, c'était la libération des esclaves. Que tu me dis que Yom Kippour, c'est le jour de la capara, que Dieu il te pardonne. Mais oui, mais il te pardonne parce qu'il y a un système de valeurs qui s'appelle la Torah que tu as reçu à Yom Kippour. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Asikes ? Bonne question. Eh bien, les amis, alors, on se rappelle, on a besoin... pour que ce soit homologué, que ce soit un événement historique qui a touché le peuple juif et qui est en rapport avec la sortie d'Égypte, puisqu'on dit « Zecher leitziat Mitzray ». Ron ? Eh bien, les amis, c'est très simple. Quel est l'événement que nous fêtons ? Nous enseigne Rabbi Eliezer Rokeach, 13e siècle, dans son livre « Baal Rokeach ». Eh bien, nous dit le Rokeach, quelque chose de très simple. Il dit, de toute façon, c'est une évidence. Et il suffit de regarder deux, trois minutes les versets. On se rendra compte que la fête de Soukhot correspond à la guerre de Sichon.
La guerre de
Sichon. Ça nous parle tous. Petit rappel. Dans le livre de Bamidbar, nous faisons la guerre contre un roi qui s'appelle Sichon, qui est roi de Hémori. Et ensuite, on fera une guerre dans la foulée contre un mec qui s'appelle Og, roi de Bashan. Eh bien, Sichon et Og, leur territoire, c'est à peu près la Jordanie et le Golan, l'actuel. Et on fait la guerre contre eux. Et ces guerres-là contre Sichon et Og sont les premières conquêtes de la terre d'Israël.
Ça
existe
Il y a un
téléphone
là, celui qui n'entend pas.
C'est une sicha, voilà, c'est une sichon. C'est lui qui appelle. Donc la guerre de Sichon, c'est la première étape de l'entrée en Eretz Israël. Alors certes, c'est de l'autre côté du Jourdain, mais c'est la première étape de l'entrée en Eretz Israël. D'ailleurs, bah, les premiers qui vont s'implanter en Israël, c'est les tribus de Réhouven et Gad qui vont s'implanter là-bas. La sortie d'Égypte, les amis, elle commence quand ?
À
Rosh Hashanah, quand la libération des esclaves. Mais elle se termine quand ? C'est quoi l'objectif de la sortie d'Égypte, les amis ? Il y a fait. Donc, elle se termine quand la sortie d'Égypte ? Quand on arrive. Rosh Hashanah est donc la première étape de la sortie d'Égypte. Soukhot, 40 ans plus tard, est la dernière étape de la sortie d'Égypte. C'est le moment où on va pouvoir rentrer en terre d'Israël, dans la terre de Sichon Véog. Et donc, nous dit Rabbi Eliezer Oker, ça se passe le 15 Tichré, la guerre contre Sichon. Et c'est ça qu'on fait. Non, pas de la même année, 40 ans plus tard, bien sûr. Sauf que, bon, bah, moi, je veux bien que tu me dises ça. Mais quel rapport avec des Soukhot ? Parce que je vois quand même le rapport avec le chauffard et la libération des esclaves. Pourquoi tu me dis, ok, je veux bien que ce soit la guerre contre Sichon, mais quel rapport avec une souka ?
Ben, toutes les maisons qu'on a fabriquées, il n'y avait rien d'autre.
Ben, quand on fait la guerre, on dort dans des soukottes.
Voilà, cabane quoi.
Dans des soukottes. Mais alors pourquoi, d'où je sais qu'on dort dans des soukottes quand on fait la guerre ? Ben, d'abord parce que c'est vachement plus pratique que de dormir dans une tente. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand on est avec l'armée qu'on a aujourd'hui, on a un soutien logistique énorme. Donc, j'ai pas de problème de me trimballer avec ma tente. C'est la logistique après qui va reprendre la tente. Mais à l'époque, si tu prends une tente pour dormir, il va falloir faire quoi le lendemain matin ?
La
trimballer sur le dos. Ouais. Ah, j'ai pas que ça à faire. Donc, évidemment que je prends pas une tente. Une souka, ça se fait en tchic-tchac.
En sur place.
Évidemment, en sur place.
Sur place.
C'est si tu prends avec les matériaux que tu trouves et tchic-tchac, hop-palop, et c'est terminé.
Et dans le désert, il y a du sera.
Mais c'est bien là que j'ai envie de te rappeler qu'on n'est absolument pas dans le désert.
Non, on n'est pas dans le désert.
On est en face de Yericho. Donc du sera, en veux-tu, en voilà, il y a des palmiers partout là-bas.
Ouais.
Ok ? Donc finalement, faire une souka, c'est tchic-tchac. C'est le meilleur moyen pour faire la guerre. On fait une souka sur place. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle une svara. Une svara, ça veut dire, c'est, ouais, j'ai un raisonnement logique. Mais ce n'est pas une preuve. Ben oui, mais la preuve, elle est marquée dans le livre de Samuel. Dans le livre de Shmuel, on fait référence à l'histoire de David et du roi David, David Amalek et Bathsheba. Vous vous rappelez de cette histoire-là ? Bathsheba est une femme très, très belle, magnifique, qui est marié avec un homme qui s'appelle Uriah Hittite, un des généraux de l'armée de David. La guerre est lancée entre le peuple juif et Rabat Amon, et donc David envoie son armée combattre Rabat Amon. À cette époque-là, lorsqu'un soldat part à la guerre, il donne à sa femme le guet, le divorce, au cas où il ne revienne pas et qu'on ne sache pas ce qui lui est arrivé. Donc techniquement, Bathsheba est divorcée, mais en fait, ce guet-là, il ne devrait rentrer en vigueur que si je... Bon. Donc techniquement, hein, mais bon... Hein. David la voit et il voit par esprit prophétique que c'est avec elle que la lignée messianique doit s'accomplir. pour ça qu'elle s'appelle Bat Sheva, la fille des sept jours de la création. Elle m'est réservée depuis ce moment-là. Alors nous disent nos sages de la Kabbalah qu'en fait il aurait dû attendre et ne pas aller vers elle, attendre que Uriah meure à la guerre tranquillement, et ensuite, bon, je ne rentre pas dans les détails, de toute façon David a fait ce qu'il a fait et il ne s'est pas cherché d'excuses, puisqu'il a tout de suite reconnu « Khatati la Hashem ». Donc il dit « J'ai fauté, je ne cherche pas d'excuses, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien ». Mais on n'est pas là pour parler de l'histoire de ce que lui il a fait. Une fois qu'il a fait ça, il comprend qu'il a fait pas bien, donc il fait rappeler Uriah du champ de bataille. Pourquoi ? Pour lui permettre de retourner chez sa femme. Comme ça, si jamais de l'union du roi avec madame, il s'est passé un truc, personne ne saura. Sauf que...
Moi, j'avais pas compris ça comme ça.
Oui, mais c'est ça le but. Sauf que, Uriah ne va pas dormir chez lui. Il reste dormir sur les marches du palais. Et le lendemain matin, David lui demande, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu n'obéis pas ? Et Uriah répond, eh bien parce que comment tu veux que j'aille dormir chez moi avec ma femme, alors que Kol Israël Yoshen Basukot. Alors que mes hommes, le peuple d'Israël, dorment dans des soukot. Parce qu'on est en guerre. De là, tu apprends qu'en guerre, on dort effectivement dans des soukot. Ça dort. Donc, je récapitule, la fête de Soukot, c'est d'abord et avant tout, eh bien, la fête où on symbolise, on rappelle la fin de la sortie d'Égypte avec la première conquête en terre d'Israël, la guerre contre Sichon. On est bon ? Parce que là, c'est bon ? Yofi. Maintenant...
Est-ce qu'on fait la victoire ou simplement la guerre ?
C'est sûr que si on avait perdu, on n'en aurait pas fait une fête. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident.
Oui, mais c'est sous la cabane que sous la tente, quand même. C'est pas très...
Quoi ?
C'est pas très confortable comme.
Mais quand t'es en guerre, c'est pas très. Mais quand t'es en guerre, c'est pas très confortable non plus.
Oui, mais c'est pour ça qu'on fait des bons repas.
On fait des bons repas.
Et puis d'abord, c'est pas si inconfortable que ça, la souka.
Ici, c'est pas inconfortable. En France, par
exemple. Mais tu n'es. Parce que le but du jeu, c'est pas de le faire en France.
On s'en fiche.
Maman, le but du jeu, c'est pas de le faire en France.
C'est
ici. Ah mais moi aussi. J'ai passé un soukot chez mes beaux-parents. Plus jamais ça. Plus jamais ça. On était en Angleterre pendant 8 jours d'affilée. La pluie s'est pas arrêtée pendant 8 jours. Le déluge. 8 jours. Je n'ai pas vu ma femme pendant 8 jours.
Il faut être là.
Non mais c'est évident. C'est-à-dire que faut bien comprendre.
7 jours, elle était de travers.
Mais non mais c'est évident. C'est évident. Il y a des gens dans des gens qui ont beaucoup, beaucoup de Yirat Shamayim, si tu vois ce que je veux dire.
Qui ont beaucoup, oui.
De Yirat Shamayim.
Comme ça?
Oui, beaucoup,
dire,
beaucoup.
Ça veut dire quoi, Yirat?
De la crainte du ciel.
Ah, c'est la crainte. Oui, mais...
Comme disent les jeunes, la moulaga. Ils ont plein de fric. Non, il y a des gens comme ça, j'en connais aux États-Unis, machin, qui ont un système maintenant extraordinaire. Qu'en fait, dans le salon, il y a un toit ouvrant dans le salon.
Ah oui.
Oui,
mais à l'hôtel, ici, il y a ça. Waldorf.
Ah, bah, Waldorf, Yirat Shamayim. C'est ce que j'ai dit. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? Hein, voilà, on ouvre le toit dans le salon et on met du srach. Et en fait, on est dans notre salon. Alors, c'est génial. Comment est-ce que tu peux dévoyer complètement une mitzvah? C'est génial. C'est-à-dire que, effectivement, techniquement, halachiquement parlant, ta souka est kasher. Mais c'est tout sauf une souka.
Bah écoute, c'est le cas de l'autre. Hein.
Pourquoi ? Tu fais là ?
Oui.
Mais tu fais pas dans ton salon ?
Oui, enfin bon.
Ah non ! Il y a quand même une grande différence. T'es quand même dehors.
Oui, j'ai envie.
C'est quand même pas pareil que tu restes là avec tous tes meubles, machin, oui, tranquille. Mais là, t'as fait un petit trou.
Mais au Waldorf, t'ouvres, t'es dans le salon, mais t'ouvres quand même.
Mais je suis d'accord. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est comment tu peux dévoyer l'idée de la souka. Je vous rappelle quand même que la souka, c'est censé être d'Irat Araï.
On était censé être manger rien du tout, maintenant on mange tout. Hein.
Pourquoi on était censé manger rien du tout? Mais enfin, bande d'Ashkenazim, bande d'Ashkenaz, à Pessah, on est juste censé pas manger de Hametz.
Oui, c'est tout.
C'est tout.
Et encore, tu fais du pain avec aussi. Avec
non, mais ça veut dire, à Pessah, le seul truc qu'on est censé pas manger, c'est du Hametz. Le fait qu'on a rajouté après les kitniot et qu'on a rajouté après les trucs, c'est pas l'origine.
Ouais, je suis d'accord avec
ça. Ça a l'air. Donc, non, maintenant, le fait qu'on a réussi à manger d'autres trucs qui ne sont pas chametz, mais qui ressemblent à du chametz, c'est pas dévoyer le truc, parce que à Pessah, à aucun moment, on t'a demandé d'être en diète, c'est pas Tisha B'Av, Pessah.
Chez nous, c'est
fait. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais non, imagine-toi, la soukha, c'est censé être dirat arai, c'est-à-dire une maison temporaire, pour ressentir le fait que tout n'est pas éternel. Voilà. Mais en fait, si toi, t'es dans ta maison, et qu'en fait, t'as juste ton toit qui s'est un peu ouvert, mais t'es exactement dans les mêmes murs que ta maison, et ton canapé, et ton lit, et ton machin, oui, c'est kasher, techniquement, je peux rien te dire. Et les gens, ils vont dire, oh, quelle soukha magnifique! Mais.
Je savais même pas que ça existait.
Mais il manque un truc! C'est pas rien!
Je savais pas.
C'est pas rien! Maintenant, il y a un texte comme ça de Reb Shlomo Carlibach. Et j'ai dit à un ami, j'ai un ami qui est très très fan de Reb Shlomo. Et je lui ai dit une fois, je lui ai dit, mais ce texte-là, avec tout l'amour que j'ai pour Reb Shlomo Carlibach, ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est tout un texte où il dit que le srach, le meilleur srach, c'est les branches de pain.
Ah,
de sapin.
Je suis d'accord avec lui.
Voilà. Et il te dit, il y a des gens en Eretz Israël qui prennent du bambou ou alors qui prennent des feuilles de palmier. Il dit, c'est évident que c'est cachère, mais il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas l'épine de sapin qui est rentrée dans la soupe. Mais c'est d'air, nachon. Et voilà, sauf qu'il n'y avait pas de sapin en Israël. C'est l'odeur de la galoute, bidouk. Ça nous fait un petit peu de nostalgie et tout, machin. C'est l'odeur de la galoute. C'est comme quand tu viens faire le seder en djellaba. C'est le kiff. T'es à l'aise, mais rappelle-toi quand même que c'est l'habit de la galoute. C'est l'air. Les Ashkenazim, les Sfaradim, on a pris 2000 ans, 1500 ans.
Ça sentait bon le sapin.
Ben oui. Et comme ça, quand t'étais dans la soupe, il fallait que tu fasses un peu attention. Est-ce que ça, c'est du romarin, c'est du sapin, on sait pas. Des kitsour. Tout ça pour dire que, les amis, la soukha, c'est censé être la soukha. Ça veut dire, non, je dis pas, techniquement, halakhiquement parlant, elle est cachère, y a pas de problème. Mais bon, il manque un truc, à mon sens. La soukha, c'est pas chaud. Ça doit être dehors. Ça doit être. Tu sors de ta maison pour aller dans ta soukha. C'est quoi la rayon? Bekitsour. Donc on a dit, très bien, c'est le souvenir de la guerre et c'est pour ça qu'on fait des soukhotes, parce qu'en guerre, on dort dans des soukhotes et pas dans des salons. Mais, quel rapport, si on a trouvé le rapport avec la soukha, quel rapport avec les arbat aminim? Parce qu'il y a une autre mitzvah importante dans la fête de Soukhot, c'est les quatre espèces, les arbat aminim, qui sont, je vous rappelle,
la myrte
en hébreu,
Hadas,
les drogues en français,
Cédra,
le palmier en hébreu, Loulav, et le saule pleureur en hébreu, Arava. Okay, donc on a les quatre espèces. Pourquoi celle-là? Pourquoi pas d'autres? Le romarin, ça aurait été bien.
Parce que il a des fruits.
Je peux t'en trouver plein d'autres. Non, mais mettre.
C'est ce qu'il y avait en Israël.
Il a fait mode, pas shoot mode. Nous dit le Rambam dans le livre Moré Nevouchim, dans le guide des égarés. Il dit pourquoi ces quatre-là? Parce que c'est les espèces qui poussaient en Eretz Israël à profusion.
Oui, mais maintenant on les importe. Hein.
Ah, voilà.
Les drogues,
aïe, aïe, aïe.
C'est les plus beaux, paraît-il.
T'as regardé? Hein? T'as regardé?
Non.
Je sais pas. Moi, je vais te dire, il y a une fois, hein, mon beau-père, il était, bon, il était plus rabat que les rabat, comme vous le savez. Et chez rabat, on prend des trogim uniquement de Calabre, en Italie.
Ah bon?
Ah oui. Parce que le rabbi, il a dit qu'il faut prendre des trogim de Calabre, c'est le mieux.
Pas d'Israël.
Alors, ne t'inquiète pas. À Kfar Chabad, ils ont pris des graines d'étrog de Calabre et les font pousser. Non. Attends, juif ou pas juif? Maintenant, il y a dans la vieille ville de Jérusalem, oui, dans un endroit un petit peu caché, dans le quartier arménien, au 49 de la rue, une petite porte. Tu rentres dans la porte, il y a une petite cour, et dans cette cour, il y a là-bas le seul de toutes les murailles de la vieille ville, le seul arbre à étrog de Jérusalem. C'est vrai. Et que depuis des centaines d'années, les gens de Jérusalem, ils viennent prendre leur étrogue là-bas.
Il y en a,
ah oui, c'est magnifique.
Ils les vendent.
Non, ils les vendent pas. Ils les vendent pas. Ils font un. Non, c'est un truc avec la yeshiva des Mekoubalim, si je me trompe pas. C'est eux qui prennent.
Des grands, ils donnent.
Non, c'est un petit arbre, mais ils donnent. Ouais, bah, je sais pas, ils donnent.
Et comment ça se fait?
Il y a une cinquantaine, soixantaine de fruits. Ah oui. Et puis, ils ont l'habitude de prendre qu'une année sur deux. C'est-à-dire que les fruits grossissent, sont très gros.
Pourquoi il n'y en a qu'un? Pourquoi on n'en plante pas ailleurs?
Non, d'abord dans la vieille ville où tu veux planter. Il n'y a pas de.
Il y a beaucoup de jardins.
Non, mais il y en a, mais il y en a plein des champs de Etrogim, c'est pas le problème. Je dis, là-bas, c'est le seul de la vieille ville. C'est-à-dire, il y a la ville de Jérusalem. Donc, fut un temps, on pouvait rentrer en douce dans cette porte-là. Maintenant, ils en ont marre, ils ont mis un code. Parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Et, mais bon, à l'époque, on pouvait rentrer et. J'ai amené mon beau-père à un moment donné. Je lui ai dit, regarde, je sais que tu vas me dire Calabre et le Rabbi, est-ce que tu veux, machin. Ah, ben, regarde. Je la mets devant le troguier de Jérusalem, avec les troguimes jaunes, comme ça, énormes. Et pour la seule fois de sa vie, je l'ai vu chavirer dans sa émouna de Calabre. Il dit, ah, écoute, les troguimes de Jérusalem, c'est l'opachoute. C'est-à-dire, donc évidemment, c'est les fruits qu'on trouvait en terre d'Israël, c'est pas chute. Donc, cette fête-là, c'est la fête d'Eretz Israël. C'est la fête de la terre d'Israël, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. D'ailleurs, il y a une autre fête dans la fête. C'est-à-dire qu'il y a la fête de Soukhot, très bien, mais dans la fête de Soukhot, il y a deux autres, enfin j'ai dit une, il y a deux autres, alors ça, je ne parle même pas de Shemina Tseret, qui est encore une autre fête. Alors, Hoshana Rabba, oui et non. Hoshana Rabba, c'est justement quelque chose qui est du domaine pour l'instant, comme Tu Bishvat, qui est du domaine du Minag des Mekoubalim. C'est-à-dire que le fait de donner à Hoshana Rabba une place très importante à Sukkot, Zalpi à Kabbalah. C'est pas un truc halakhique. D'ailleurs, les Yekes, c'est-à-dire les Ashkenazim d'Europe centrale, machin, te diront que Hoshana Rabba, c'est rien d'autre qu'un autre jour de Chol HaMoed. C'est exactement la même chose que les autres jours de Sukkot.
Avant la deuxième partie de la fête.
C'est la veille. C'est la veille. C'est la veille. Mais les Mekoualim ont fait de Hoshana Rabba quelque chose de très très important.
C'est très
beau
d'aller.
De où? Ben, vadaï, mais on va faire aussi un limoud à Shorachim. On va faire un limoud, et c'est très important. Hein. Moi, je vais enseigner toute la nuit, comme à Shavuot, machin. Vadaï. Je te dis pas que c'est pas vrai. C'est très vrai. Mais ce n'est pas halakhique. C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire de Hoshana Rabba un truc foufou. Au niveau de la halakha, c'est juste une fila un peu plus longue.
Donc c'est le dimanche, ça sera le dimanche.
Non,
c'est
vendredi.
C'est vendredi. C'est vendredi. Jeudi soir, vendredi.
Jeudi soir, vendredi.
Quand tu disais, il y a toute l'année en
Hoshana Rabba. Oui, toute l'année. Oui. Bien sûr. Mais c'est pas que en Tunisie. Hein. Il y a plein d'endroits où on fait ça. Mais ça, c'est un minag qui vient des Mekoubalim.
C'est pas là où tu reçois le Shabbat.
Le Kvitel.
Nakhon.
Mais tout ça, ça vient d'où? Des Mekoubalim. C'est-à-dire que, halakhiquement parlant, Hoshana Rabba n'a rien de particulier à part que la tula est plus longue parce que tu répètes toutes les Hoshanot, tu fais le rappel de ce qui se passait au Beit HaMikdash. Mais les Kabbalistes vont nous expliquer qu'Hoshana Rabba, c'est effectivement la fin du véritable jugement parce qu'il fallait 10 jours. Nakhon, c'est le Shempel. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Aseret Yemei Tshuva. Mais le problème, c'est que c'est une tshuva où il y a beaucoup de yira et de hava. Il y a les jours de Rosh Hashanah, il y a le jour de Yom Kippour. Donc, yesh yira ve hava. Mais il n'y a pas de simcha. Parce que tu es be'ematadin, tu es toujours dans le stress du jugement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a après Yom Kippour, entre Yom Kippour et Hoshana Rabba, 10 jours également, où ce sont 10 jours de tshuva, mais cette fois que par la simcha. Donc, c'est une autre réalité pour nous rattacher à Dieu. D'accord? Et il y a aussi énormément de choses à dire là-dessus. Bien sûr. Mais encore une fois, ça vient au-dessus. D'abord, quelles sont les fêtes officielles de la fête de Sukkot? On a parlé de Sukkot elle-même, mais il y a deux autres choses. La première, c'est mitzvat akel. Mitzvat Akel, tous les 50 ans. Je dis n'importe quoi, je me reprends tout de suite. Non, tous les 7 ans. Donc pour moi, c'est pas tous les 7 ans, à la fin de la Shemitah, il y a l'année qui suit la Shemitah, il y a la... Non, c'était Sukkot dernier. La Shemitah. Là, on est déjà... Donc, qu'est-ce qui se passait? Le roi venait au Beth Amikdash et tout le peuple venait le voir lire la Torah. En gros, le peuple entier venait voir le roi se soumettre à Kadosh Baruch.
Et si le président y va?
Et si on fait un Mahamad Akel, alors c'est au Kotel, c'est pas au Beth Amikdash. Et il y avait le président, il y avait le premier ministre, machin. C'était sympathique. D'ailleurs, on a vu que le président savait lire la Haftara. Et donc ça, c'est mitzvah Akel. Mais c'est quoi? C'est une mitzvah qui est complètement liée à la terre d'Israël, puisque c'est la mitzvah de la royauté à la fin de la Shemitah. Et tout ça se passe en Israël. Et il y a une autre mitzvah qui s'appelle Simchat Bet Hashoeva. Je ne parle pas encore de Simchat Torah. Ah ben, bah, il y avait trois personnes.
On fait encore aujourd'hui Bet
Hashoeva. Très important.
On fait encore aujourd'hui Bet Hashoeva.
C'est quoi Simchat Bet Hashoeva? Dans les communautés, on amène un orchestre, on fait de la musique. Et les gens, ils dansent.
Ici aussi, hein.
Mais à quel moment?
J'ai dit dans les communautés, j'ai pas dit en roule.
À quel moment alors?
Tous les soirs de Sukkot.
Ah, d'accord.
C'est la Simcha tous les
Nyol.
Soirs.
Nyol.
Ah, ok. Donc la guitare.
La guitare, on s'en.
Exactement.
À New York. À Brooklyn. À Brooklyn, à New York, à Crown Heights. Vous connaissez Crown Heights? Vous connaissez pas le quartier de Crown Heights à Brooklyn?
Non.
À Brooklyn. Il y a le quartier où le rabbi de Lubavitch a mis son 770, ouais. Son 770. Eh bien, c'est dans la 770. Attention. Pas 777, 770. Voilà. C'est la maison du rabbi. C'est au 770 de la rue Eastern Parkway, dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn, chez New York City. Maintenant. Les Chabad, ils font de Sukkot un truc énorme et également, particulièrement, ce Simchat Bet Hashoeva. Et donc, toutes les rues de Crown Heights sont bloquées. Il y a des gens qui dansent partout dans les rues. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ils oublient qu'à Jérusalem aussi.
C'est magnifique.
C'est magnifique. Ouais. Mais en tout cas, c'est magnifique. On danse.
Jérusalem,
bon, d'accord.
On
n'a
pas vu ça.
Comment on n'a pas vu? Partout, il y a des ambiances. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne ferment pas les rues? Bah, parce qu'il y en a tellement dans plein d'endroits différents qu'ils n'ont pas besoin de fermer les rues.
Maintenant,
mais ça, je vais te dire, ça, j'avais entendu presque 20 ans. Je crois que c'était la première année où j'étais venu en Israël et ça m'avait choqué. Ça m'avait fait un déclic. Ouais. On avait, la première année où j'étais en Israël, donc c'était à 19 ans, donc j'étais au Machon Meir et on avait beaucoup de chance cette année-là. D'abord, on avait beaucoup de chance d'être au Machon Meir, mais on allait faire deux cours le jeudi après-midi chez des rabbins en vieille ville. Le premier cours, on allait étudier avec le Rav Naon, le Rav Yaakov Naon, dans la yeshiva des kabbalistes. Bon, on n'étudiait pas la Kabbalah parce qu'on ne comprenait rien, mais on était là-bas et c'était très impressionnant d'être là-bas. Et après, on allait étudier avec le Rav Aviner dans sa yeshiva, dans le quartier arabe, Be'ateret Kohanim. Donc pour nous c'était la folie, tu vois, parce que partir dans le quartier arabe, on était tous avant l'armée, donc on était tous en mode on rêvait de Rambo, et donc on allait s'installer avec le Rav Aviner et il n'y avait jamais de place dans la yeshiva, donc on s'installait tout le temps sur les toits du Rava Moussami. C'était assez incroyable, et je me rappelle qu'un jour le Rav Aviner il nous avait dit dans certaines communautés en Chutz La'aretz, ça peut être aux États-Unis, en France, je sais pas, où il y a des grandes concentrations de juifs, des fois tu rentres dans une rue et t'es mamash Be'eretz Goshen. Et t'es vraiment, t'as l'impression que tout est juif là-bas. Il y a des juifs partout. Il y a des yeshivot, il y a des restaurants cachers, il y a des trucs. Et si tu vas dans ces rues-là pendant des fêtes juives, ah, t'as l'impression que c'est la Géoula. Et effectivement, il y a des gens, moi je connais un très bon ami qui me dit, mais attends, mais Pourim à Strasbourg, c'est fantastique. Pourim à Strasbourg, c'est fantastique. Et le Rav Aviner nous disait, mais... Et il se passe quoi dans la rue d'après?
Ah, voilà.
C'est ça.
Non, parce que t'as la rue avec toutes les chivotes, les restaurants cachers, et la rue d'après. La rue perpendiculaire, ou le parallèle, où c'est plus le quartier juif. Il se passe quoi?
Ils sont pas contents parce
Il se passe quoi? Il y a des restaurants cachers, t'as la vie juive, j'ai pas compris.
On
te lance les œufs. Hein? Et, ou, tu fais pourri à Strasbourg, c'est fantastique. Ok, et le lendemain pourri, mais il se passe quoi? Tu comprends? Beret Israël, c'est quoi la yom pourri?
C'est vrai.
Et c'est dans toutes les rues. Regardez comment est-ce que au rond-point de Dizengoff, les gens ils aiment Yom Kippourim, ils sont pas venus la veille, ils sont pas là le lendemain. C'est-à-dire, il y avait 20 personnes qui sont tellement pour eux, Yom Kippour, c'était tellement important. Je suis sûr qu'ils se sont préparés pendant des semaines pour venir faire le boxon à la Tfila. C'est fantastique, c'est des gens qui aiment Yom Kippour. Bon, différemment de moi, mais tu vois qu'ils sont pas venus la veille ni le lendemain. C'est comme les gens qui font les grillades à Kippour.
Ils étaient pas seulement à
Tel Aviv,
ils étaient
aussi. Oui. C'est-à-dire que pour eux, Yom Kippour, c'était un truc qu'ils ont préparé. J'aimerais bien voir, sinon on s'est tous autant préparés comme ça pour Yom Kippour. Hein, non, on s'était pas préparé comme ça, non, on a juste été à la synagogue. Tu sais, t'as des gens, ils sont à fond sur Kippour. Les gens qui vont faire des grillades sur la plage à Tel Aviv, c'est parce que c'est Kippour. Ils le feront pas le lendemain ni la veille. Donc tu vois qu'il y a une toda de Yom Kippourim, c'est fantastique.
C'est la haine.
C'est fantastique. Ah mais en vrai, ça veut dire quoi de dire que t'es là-bas, t'as un truc, machin. On ribono shel olam. Dans ta petite rue, t'as un truc.
C'est ça.
Ah, ma corée dans la rue d'après. Et lui qui est marié avec une Goya, lui qui est marié avec une Goya. De quoi on parle? Mais qu'est-ce qu'on simchat bet ha-shoeva? Mais alors c'est quoi? C'est l'idée, c'est de faire des fêtes? Ben non. C'est bien de faire des fêtes. Mais il faudrait quand même pas oublier qu'est-ce que c'est behemet simchat bet ha-shoeva. Puisqu'on a dit que toute la fête de Sukkot, elle était liée à la terre d'Israël. C'est quoi simchat bet ha-shoeva? Eh bien les amis, simchat bet ha-shoeva, c'était un truc très concret. C'était pas tous les soirs on sort, on fait la fête. Non, ça c'était à Yom Kippour. C'était à Minchat Yom Kippour. On a été faire des shidurim.
Il y avait les invités?
Non! Alors ça c'est les houshpizines, c'est encore autre chose. Mais ça c'est aussi Alpi Akabala. Que tu fais rentrer dans ta soukha, Avraham, Mitzrak, Yaakov. C'est yafé, c'est nachron. Mais c'est pas halakha. Ok? Les amis, Simchat Bet HaShoeva, à l'époque du Bet HaMikdash, c'est le moment, le lendemain du Yom Tov de Sukkot, on allait en grande pompe Be Brechat HaShiloach. On allait à la piscine du Shiloach, en bas de Hir David. Et là-bas, il y avait les Kohanim qui étaient là-bas et qui puisaient de l'eau dans la piscine. Comment on dit puiser en hébreu? Lishov, Simchat Bet HaShoeva, parce qu'on puisait de l'eau. Et cette eau-là, on l'a remontée. Il y a une grande rue qui monte de la piscine de Brechat HaShiloach jusqu'au Bet HaMikdash. Cette rue, elle est en train d'être ouverte au public.
Elle est ouverte.
Pas toute la rue encore, parce que toi, tu passes par un autre truc. Oui. Il y a un début, et après, ça s'arrête. Et si tu veux remonter, il faut passer par ce qui était les canalisations.
Devant le côté, dans le David.
Donc, la rue qui montait au Bet HaMikdash. Et donc, on remontait.
Hein? On remontait cette eau,
et on la mettait sur le Misbéar. C'est ce qu'on appelle Nisuch HaMaim. C'est là où on mettait l'eau sur le Misbéar, sur l'autel du Bet HaMikdash. Et c'était le moment où on demandait à Kadosh Baruch Hu qui nous bénisse et qui nous donne de l'eau toute l'année. C'est pour ça que nous dit la Mishnah, Bachag Nidonim HaLaMaim. C'est pendant la fête de Sukkot que Dieu décide s'il va bien pleuvoir ou pas bien pleuvoir.
Hein? Il y a aussi Birkat HaKohanim.
Mais encore une fois, il y a Birkat HaKohanim. Mais ça... Ça, c'est une ambiance qu'on s'est faite. Parce qu'en fait, Birkat HaKohanim, il y a tous les jours. Au Bet HaMikdash, les Kohanim, ils bénissaient tout le temps.
Oui.
C'est juste que nous, on en a fait quelque chose de grand pour les touristes.
Oui.
Bien sûr. Parce qu'en vrai, le Birkat HaKohanim qu'on fait le mercredi en général, machin, au Kotel, les grandes pompes, et ça, c'est sympathique. Mais en vrai, pourquoi on le fait pas tous les jours?
Cette année, il y a lundi, mercredi.
Et pourquoi on le ferait pas tous les jours? En vrai. Dans la tfila, on fait tous les jours. Donc, le fait que t'en fais un gros machin. Pourquoi on en fait un gros machin? Parce que c'est la fête où les gens, tout le monde venait à Jérusalem, Bet HaMikdash, donc il y a de plus en plus de gens. Donc on a voulu en faire un truc bien. C'est très bien, je suis pas contre. Mais je dis simplement que voilà, c'est quoi l'origine? L'origine, c'est quand on allait puiser cette eau-là et qu'on l'amenait au Bet HaMikdash. Et la Mishnah nous raconte comment ça se passait. Ce moment où on ramène l'eau jusqu'en haut. C'est là que c'était la simcha. où en fait tous les gens étaient en danse, machin, et ceux qui dansaient au milieu de tout le monde, c'était les rabbins du Sanhédrin. À tel point qu'on nous dit que Rabban Gamliel, il était le meilleur jongleur de torches enflammées de toute la ville. Et il jouait avec des torches enflammées comme ça, autour des Kohanim, pour remonter et faire de l'ambiance. Ça s'appelle faire de l'ambiance. Simchat Bet HaShoeva. Donc vous comprenez que tout ce qui tourne autour de la fête, c'est Kedushat Eretz Israël. Maim Beretz Israël, Amalchut, la royauté, donc l'eau, la royauté avec le mitzvah de Hakel, la Shemitah, donc juste après la Shemitah, les Sukkot de la guerre pour la conquête d'Israël, les fruits, enfin les espèces végétales qui sont en terre d'Israël, toute cette fête est tournée vers Kedushat Eretz Israël. Et donc, puisque toute la fête est tournée et centrée vers Israël, on est bien. On est chez nous. On est à la maison. Quand quelqu'un il est bien et il n'est pas sur la défensive, alors il peut accueillir. Quand on est sur la défensive, on ne peut pas accueillir. On est occupé à être sur la défensive. À Pessah, on est sur la défensive. On est très content d'être sorti d'Égypte, mais notre regard par rapport au goyim, pas top. Bah, il y a deux minutes, il nous faisait la persécution. Donc à Pessah, qu'est-ce qu'on dit sur les goyim? À Pessah, on dit « Shefor hamatcha la goyim asher lo yedaucha » à la fin du Seder. C'est-à-dire « Déverse toute ta haine, toute ta colère sur les goyim qui ne te connaissent pas, machin. » Pas Soukot, c'est au contraire. Comme on est chez nous, comme on est bien, alors on peut accueillir. Et donc, Soukot, c'est la fête où on dit aux goyim, venez.
Et, il y en a beaucoup.
Mais donc, il y en a beaucoup. Mais ouais. D'où ça vient? Parce que c'était à l'origine la fête où on leur disait, venez. D'ailleurs, on va faire 70 sacrifices durant la fête de Soukot pour les 70 au Mata Olam, pour les 70 nations. Donc, ça veut dire que la fête de Soukot, c'est parce qu'on est là, parce qu'on est bien. Pas trop délai parce qu'on est bien, alors on peut inviter, on peut dire les gars, vous pouvez venir. Et c'est ce qui se passe quand les goïms viennent. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? C'est une vraie question ça. Qu'est-ce que les goïms ils viennent chercher ici? Eh bien, il faut se rappeler de ce verset qui est dans le livre de Isaïe, qui nous dit que « Va'alchou amim rabim » viendront plein de nations. Vers Amérou, et ils diront Bou Naale El Har Hashem. Les nations, hein, disons venez et montons sur la montagne de Dieu, El Bet Elohe Yaakov, dans la maison du Dieu de Jacob, Ve Yorenu Miderachav, Venelcha Beorchotav, et on ira dans ses chemins au Dieu de Jacob. C'est les Juifs qui vont nous enseigner comment il faut faire. Ki Mitzion. Tetsé Torah Udvar Hashem Yerushalayim. C'est les Goïm qui disent ça. Que c'est de Sion que sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Et ça se passe quand? Eh bien, Bechag, à Soukot. Donc, oui, mes amis, la fête de Soukot est totalement tournée vers la terre d'Israël, vers la réussite de la sortie d'Égypte, vers le moment où le peuple juif a atteint son objectif, où il va pouvoir enfin commencer à bosser. L'objectif de la sortie d'Égypte est de pouvoir atteindre une normalité dans laquelle on va pouvoir commencer à avoir un message universel pour le monde entier. Ça tombe bien que ça se passe juste après Yom Kippour, parce que pour pouvoir donner un message, il faut que toi, tu sois bien.
Nickel.
Nickel. Mais c'est bien. Voilà, donc on a fait un tour d'horizon de Soukot le plus pachout du monde. Après, il y aurait évidemment plein d'autres choses à raconter sur tout ce qu'on va en plus apprendre sur la fête de Soukot.
Il y a la Simchat Torah aussi.
Et Simchat Torah, c'est une fête en soi.
Ça vient pas après
Soukot. Ça vient juste après Soukot. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi Machou Gadol. Prochain coup, il ne faudra pas qu'on parle de Simchat Torah. Alors, non, Chol HaMoed, à mon avis, on ne fait pas court, parce que tout le monde sera en vadrouille. Et donc, on se retrouve après Soukot.
Alors, on se retrouve avec la Yikra.
Chez Mod d'abord.
Oui, enfin avec Shemot, on se retrouve. Donc bah, on emmène le...
Pas mercredi prochain.
Non, pas mercredi prochain.
Oh là là.
Non. Pas mercredi prochain.